Voilà, bonjour à tous, à toutes. Ça va bien? Alors ce matin, j'ai envie de commencer en vous demandant de changer de place, s'il vous plaît. Si vous pouviez bouger, ça m'arrangerait, parce que de derrière, j'ai vu où vous étiez, et je trouve que c'est bien si on peut bouger un peu. Et ce matin, en fait, j'ai eu envie, simplement, le thème, ça va être le changement, notre capacité à changer, notre capacité à écouter les gens qui nous demandent de changer, mais je veux pas. Enfin, on va réfléchir à tout ça ensemble. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème du changement, de la transition? Ben, j'avoue, parce que déjà, c'est un thème qui me touche actuellement, personnellement, parce que, en fait, je suis en pleine période de changement. De transition. D'abord au niveau professionnel, après 19 ans de dur labeur à la Ligue, j'ai quitté mon poste directeur pour prendre un 80% à la HET. Là-dessus, c'est greffé au 1er juillet de faire la syndicature à Grancy. Alors même si ça fait quelques mois maintenant, je suis encore en transition, je suis encore en changement. Et ça bouleverse. Mes relations changent. Mes repères changent, l'organisation de ma vie change, le regard que l'on porte sur moi change. Un de mes enfants m'a dit, parce qu'ils m'ont toujours connu comme directeur de la Ligue, « Papa, tu vas être qui ?» Eh oui, tout ça change. Alors loin de moi de me plaindre, parce que j'aime le changeant, ce n'est pas quelque chose qui me gêne, mais c'est quelque chose que je vis. Et je suis donc certainement, comme beaucoup d'entre nous, dans une période plus ou moins de changement. Vous savez, je l'ai dit, un changement de travail, l'arrivée d'un enfant, une nouvelle formation, nouvelle coupe de cheveux qu'on assume plus ou moins, nouvelle règle sanitaire encore et encore, le décès d'un proche, la vie de couple en perpétuelle évolution et changement. Une maladie soudaine, et même des événements qui paraissent anodins, comme la fermeture de la pizzeria que vous préférez, qui fait la meilleure pizza du monde. Comment vais-je continuer à vivre sans cette pizzeria? Il y a donc des changements qui impactent nos vies personnelles, qui sont positifs ou pas, que l'on choisit ou pas. Voilà, ça c'est dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces changements, ils vont s'inscrire dans des contextes différents, des sphères, des cercles qui, eux aussi, changent beaucoup. Je prends un exemple au hasard, notre Église. C'est une des sphères de notre vie qui impacte notre vie d'une manière ou d'une autre, qui va influencer, impacter notre vie personnelle, plus ou moins. Eh bien, elle est aussi en changement. On a changé de bâtiment. De lieu, on est dans ce magnifique bâtiment. Du coup, c'est pas anecdotique. Ça change quand on arrive de l'extérieur, ça change la place dans la ville de Cossonay, ça change la manière dont vous êtes vachement plus loin que quand on était à la Grand-Rue, donc c'est différent. Dans le cadre de l'histoire de l'Église, vous savez, toute institution vit des changements, des périodes. L'Église de Cossonay aussi. Elle est dans ce processus de développement, de changement. Eh bien, elle le vit. Et le fait de changer de bâtiment, ça l'influence aussi. Et ça va impacter notre vie, notre façon de vivre. Et puis, bientôt, on aura un changement de pasteur aussi. Tout ça, c'est un des cercles qui impacte nos vies et qui, lui aussi, est en changement. Et puis, comme la vie est compliquée, tout cela se passe dans une société, je ne sais pas comment vous le vivez, mais qui, elle aussi, vit des changements, et en perpétuel changement. Alors, il faut être honnête, une société, elle est toujours en changement, toujours en transition, ce n'est pas nouveau. Mais pour être précis, disons qu'actuellement, on vit des transitions et des changements plus rapides que d'habitude. Hein. Les repères habituels bougent, se transforment, et puis ça vient déstabiliser nos repères habituels, vous savez, ceux sur lesquels on s'était habitué. Puis tout d'un coup, hop, ah ben, ils ne sont plus là. Hein. La sacro-sainte liberté individuelle. Ça, c'était un repère fort de notre société. Ben maintenant, vous allez mettre un masque, vous êtes obligé de vous vacciner, et puis on ne vous demande pas votre avis. Et ça coince. C'est compliqué. Ce repère bouge. Et tout ça évolue. Il suffit de voir les questions éthiques, la manière de concevoir la famille, la relation entre les générations, la manière de s'informer, la relation à la vérité. Tout cela est en train de bouger, et moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Tous ces repères sur lesquels on s'appuyait tout d'un coup évoluent, notre vie évolue, nos petites sphères évoluent. Rien de nouveau. Mais ce que je trouve intéressant, quelqu'un a essayé de définir notre société et il l'a définie avec 4 mots. Elle est volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Et je me suis dit, c'est là-dedans qu'on doit naviguer. C'est magnifique. Et je vais vous dire pourquoi. Rien de nouveau, on a toujours évolué, mais peut-être aujourd'hui dans un contexte un peu spécial. Quelqu'un a dit « rien n'est permanent, si ce n'est le changement », et je crois que ça, c'est bien. Vous seriez d'accord de changer de place encore ou pas ? Ah, plus compliqué. Hein. La transition, le changement, c'est donc le passage d'un état à un autre. Ça se vit plus ou moins bien. En fonction de notre caractère, il y a des gens qui aiment le changement, il y en a qui l'aiment moins. Ça dépend de notre contexte, des gens avec qui on est, qui vont nous aider à vivre le changement ou pas. Il y a des changements que l'on choisit, alors ceux-là, on les aime mieux en général. Il y a les changements qu'on choisit pour les autres, ça nous fait sourire parce qu'on regarde ce qui se passe. Et puis il y a des changements qu'on ne choisit pas, ben, comme la pandémie, on ne l'a pas choisi. Et si ça n'a pas changé nos vies, eh ben, c'est qu'on n'a pas tout écouté. Si on ne peut pas toujours choisir les changements, j'aime bien quelqu'un qui a dit, par contre, vous pouvez choisir la manière dont vous allez le vivre. Et c'est là qu'il y a peut-être quelque chose de fondamental. Alors, sans transition aucune, je vous invite à écouter un texte biblique d'un homme qui a vécu quelques changements dans sa vie. Et puis, on va voir s'il y a quelques événements, quelques clés qui nous aident. Pour ceux qui aiment suivre, parce que ça va être assez long, c'est dans Acte 7, discours d'Étienne. Je pars du verset 17. Lorsque le temps approcha où Dieu devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, notre peuple se multiplie et devient de plus en plus nombreux en Égypte. Donc le peuple d'Israël est en Égypte, hein, suite à finalement ce passage où il y avait Joseph. Puis tout d'un coup, il y a un changement, il y a un nouveau roi qui arrive, un nouveau roi, qui, lui, n'avait pas connu Joseph et il règne sur l'Égypte. Ce changement amène des choses pas agréables. Ce roi trompa notre peuple, le maltraite et les oblige à abandonner leur nouveau-né pour qu'il meure. Changement pas trop sympathique. À cette époque, naquit Moïse. Alors Moïse arrive, voilà, naissance, changement dans cette famille, qui est un bel enfant agréable à Dieu. Beau changement. Mais il a été nourri 3 mois dans la maison de ce père, et puis hop, on l'abandonne, changement, évolution, certainement pour ce bébé aussi, un petit truc à vivre de changement pas très agréable. La fille du Pharaon le recueille et l'élève comme son propre fils. Alors Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il devient quelqu'un d'influent par ses paroles et ses actes. Quand il eut 40 ans, crise, changement, Moïse décide d'aller voir ses frères. Les Israélites. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie à 40 ans où il se dit, je suis influent, égyptien, mais je vais aller voir mes frères. Alors il voit un égyptien qui maltraite l'un d'eux, il prit la défense de celui qui était malmené pour le venger et il tue l'égyptien. Changement dans la vie de l'égyptien. Et lui, changement radical. Il pensait que ses frères israélites comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance. Il perçoit un changement pour les Israélites. Il veut vivre quelque chose. Il pense qu'ils vont comprendre, mais non,
ils ne comprirent pas, nous dit le texte. Le lendemain, Moïse rencontre encore deux Israélites qui se battaient et ils voulaient rétablir la paix entre eux. Il veut amener un changement entre eux. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous » Mais celui qui maltraitait l'autre repousse Moïse et lui dit « Qui t'a établi comme chef sur nous ? T'es qui, toi ? Tu vas amener un changement, mais t'es qui ? De quel droit tu veux nous changer ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien ? C'est ta manière de changer les gens ?» À ces mots, Moïse s'enfuit et va vivre dans le pays de Madian. Changement radical. D'Égyptien influent, pharaon, il part dans le désert. Il y a quelque chose qui se passe en lui qui fait qu'il... Changement radical. Là-bas, il a deux fils. 40 ans plus tard, hop, il faut croire vraiment qu'il y a des crises toutes les 40 ans. Je ne sais pas si les gens... Il y a quelqu'un qui a 80 ans dans la salle. C'est vrai que tous les 40 ans, on vit une crise. Moi, j'en ai vécu qu'une à 40, donc je ne sais pas encore, mais... Mais là, c'est une crise que, vous allez voir, il ne choisit pas. 40 ans plus tard, dans le désert du mont Sinaï, un ange apparaît à Moïse. Ah, tout d'un coup, il y a un changement, mais amené par Dieu, par quelqu'un d'autre. Flamme dans le buisson de feu. Moïse a été étonné de cette apparition, je peux comprendre. Mais au moment où il s'avance pour regarder de plus près, la voix du Seigneur se fait entendre. Parole de Dieu. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse a peur. Il tremble. Il n'ose même plus regarder. Le Seigneur lui dit « Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit qui m'appartient. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et moi, je suis venu pour le délivrer. » Vous percevez la première crise à 40 ans ? Moi, Moïse, je veux délivrer le peuple. Et là, moi, Dieu, je suis venu pour le délivrer. Changement de mentalité. Dans la rencontre avec Dieu pour Moïse. Métanoïa, conversion, changement de paradigme. Le but était bon de Moïse, de vouloir libérer son peuple. Mais il manquait le petit quelque chose. Qui va vraiment libérer le peuple ? Qui va vraiment amener le changement dans le peuple ? C'est Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte en accomplissant des prodiges, des signes extraordinaires dans ce pays, à la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans. Encore une fois, j'arrête là ma lecture. C'est un texte très riche de la vie de Moïse, et je vais prendre quelques minutes pour souligner quatre caractéristiques que je trouve assez intéressantes dans comment Moïse aborde le changement, et vous en avez vu qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a quelque chose qui me fait dire que Moïse, à un moment, est quand même quelqu'un d'assez humble. Pour leur dire dans les mots qui sont à moi, ce n'était pas un monsieur je sais tout. En tout cas, à partir d'un moment. Est-ce que vous connaissez l'effet Dunning-Kruger ? Quelqu'un connaît l'effet Dunning-Kruger ? C'est cette surconfiance dans notre incompétence. On appelle ça l'effet Dunning-Kruger. On a donné un nom à la surconfiance dans notre compétence. Ou dit autrement, c'est il s'agit d'une sorte de surconfiance pour laquelle les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences en croyant qu'ils sont doués. Je vous donne un exemple que j'ai lu dans le journal. Je trouve assez intéressant. Qui sait exactement ce que c'est la 5G ? Exactement, précisément. Ok. Qui a un avis sur la 5G qui se dit « c'est bien, pas bien » ? Voilà. Effet Dunning-Kruger. L'effet, le fait d'avoir un avis sur un sujet ne veut pas dire qu'on connaît le sujet. Et des fois, c'est ça un peu l'effet Dunning-Kruger. On sait, on a un avis, mais est-ce qu'on connaît vraiment ? Et c'est ça, la différence entre avoir un avis et se forger un avis, l'étudier, le connaître, pour savoir finalement quels sont vraiment les enjeux et pourquoi je suis pour ou contre ou je ne sais pas. Pas une position simplement a priori. Et Moïse, il a vécu quand même 40 ans pour passer d'avoir un avis à se forger un avis et savoir pourquoi il allait délivrer le peuple.
Finalement, son avis n'était pas totalement faux, mais lui manquait des éléments pour pouvoir agir justement. Dans le changement, il faut être humble. L'humilité nous oblige à nous forger un avis. Et pour vivre le mieux possible, je pense que c'est important, quand un changement arrive, avant d'avoir, il y a toujours le premier aspect, hein, pour, contre, mais des fois de prendre du recul et se dire pourquoi je vis ce changement, qu'est-ce qui va m'amener, est-ce que je sais vraiment ce qui se passe. Et Moïse me donne cette impression qu'il a su à un moment prendre cette humilité, ce recul sur ce qui se passait pour pouvoir amener le changement et vivre le changement d'une manière plus sereine. Il est passé, je veux imposer le changement, à, en fait, Dieu, je ne sais pas parler. Vous avez vu le changement quand même? Je ne vais pas oser aller le dire. Donc il y a même quelqu'un d'autre qui va être obligé de parler à sa place. Alors qu'au début, il a voulu imposer le changement. On verra donc qu'il y a aussi quelqu'un qui, du coup, on va s'approcher de lui pour lui demander son avis. Et lui va dans l'attente, prie Dieu, réfléchit et vient donner son avis sur toutes les situations du peuple. Il prend de l'humilité et il sait. Et si vous connaissez bien l'histoire de Moïse, vous remarquerez que les quelques fois où il a réagi, ça s'est pas mal retourné contre lui. Hein. Vous savez, le coup de bâton, là. Moi, je vais vous donner à boire. Paf ! Eh ben, voilà, effet Dunning-Kruger. L'humilité, donc, une caractéristique importante, voire fondamentale, pour vivre le changement. Être capable de dire, je ne sais pas, je vais y réfléchir, ou parfois, je fais confiance que les autres savent mieux que moi, et donc, je vais accepter de le suivre. Deuxième caractéristique qui va avec, c'est la soumission. Il m'épate. Moïse est quelqu'un qui va se soumettre aux autres. Il va se soumettre aux paroles de Dieu qu'il a reçues, même si, franchement, je ne sais pas trop ce qui se passe quand vous êtes devant un buisson ardent, qu'on vous dit « tu vas aller délivrer le peuple », que ça s'est mal passé. Il a certainement vécu des choses difficiles à l'intérieur de lui, mais il va se soumettre à cette parole. Il va accepter d'aller dans un territoire qu'il ne connaît pas du tout, dans quelque chose qui est assez énorme, et pourtant, il y est soumis. Il va se soumettre alors à Dieu, mais il va aussi se soumettre aux autres. Il se soumet à son beau-père qui lui dit « tu vas péter un câble si tu continues à vivre comme ça, change ». Et Moïse a changé. Et chose très intéressante, Moïse se soumet au Pharaon quand le Pharaon lui dit « non, tu ne peux pas partir ». Moi, ça a toujours été une question. Tout va mal, le pharaon dit « tu ne vas pas partir, bah, pourquoi tu ne pars pas ?» Il se soumet à la parole du pharaon, même si finalement, ce n'est pas ce qu'il souhaite et que ça complique sa vie. Se soumettre aux autorités qui nous obligent à faire des choses qui nous... La pandémie doit nous faire réfléchir. Troisième caractéristique, je ne vais pas parler de miracle parce que c'est un mot tronqué, je vais parler de l'inattendu de Dieu. Moïse, dans tous ces changements, je pense qu'il a pu les vivre dans une situation si compliquée aussi parce qu'il y a eu des moments inattendus de Dieu. Autrement, on dit des miracles, nous. Mais je mets inattendu parce que miracle, on perçoit toujours quelque chose d'exceptionnel, de grandiose. Ma question, c'est dans les changements que nous vivons, dans ce que nous vivons, est-ce qu'on perçoit ces inattendus de Dieu? C'est, à mon avis, dans les changements, une des grandes caractéristiques que devraient avoir les chrétiens. Être capable de voir les inattendus de Dieu qui nous accompagnent et qui nous permettent de vivre ces changements sereinement. De pouvoir se dire, ah là, Dieu est avec moi, je le perçois, je le vois. Alors ça peut être des miracles comme le léman qui s'ouvre pour aller boire un café à Evie en face. Mais ça peut aussi être des tout petits signes qui montrent que Dieu est là. L'inattendu de Dieu. Vous savez, cette chose que vous n'attendiez pas, mais qui arrive au bon moment et qui vous permet de continuer, de persévérer pour pouvoir entrer là où on n'imagine pas. Ces inattendus qui font que, pas souvent, moi j'ai entendu des choses, on va attendre que ce que Dieu veut, mais dans notre tête on sait ce que Dieu voudrait. Donc l'inattendu, c'est, on n'a pas de modèle, il nous surprend, c'est, ah, je ne m'y attendais pas à celle-là. Eh bien, c'est une des marques de Dieu qui nous permet d'aller dans ces territoires qu'on ne connaît pas. Et pour moi, comme j'ai dit, c'est un axe important en tant que chrétien pour vivre de manière sereine ces changements. Nous proclamons, nous chantons, nous confessons que Dieu est notre rocher. Est-ce que dans tous ces temps où tout bouge, est-il ce rocher qui, lui, ne bouge pas, ce qui fait que vis-à-vis des autres, tout va bien? C'est vrai, le monde bouge, la pandémie nous tracasse un peu, mais comme je suis sur le rocher et que je suis accompagné de ce Dieu qui m'amène dans ces inattendus, pas de problème, je suis serein, en paix, et c'est ça ma bonne nouvelle aux autres. Moi, je ne l'ai pas beaucoup entendu personnellement, mais Dieu est notre rocher. Et je vous rassure, j'arrive au bout. Le quatrième, c'est l'écoute et le temps que l'on prend avec Dieu. Moïse a su écouter Dieu. Moïse, même s'il a été contraint parfois à l'écouter, ça nous arrive, hein, quand on n'est plus capable, y a des buissons ardents qui arrivent et on n'a pas le choix. On doit écouter ce que Dieu a à nous dire. Il l'a fait dans des contextes très divers, mais il s'est toujours mis à l'écoute de Dieu et il l'a fait ce que Dieu lui demandait. Est-ce que je vous rends attentif à ça. Ce qui est intéressant, c'est que Moïse n'a jamais écouté Dieu pour son bonheur personnel. Il a toujours écouté Dieu par rapport à une mission qu'il avait et pour les autres. Il n'était jamais le centre de l'écoute. Moïse écoutait Dieu et il retransmettait les paroles aux autres. Il écoutait pour donner des jugements. Il écoutait pour accomplir une mission. Il écoutait pour être au service du peuple, pour les amener dans le changement. Écouter Dieu, seul, en groupe ou au culte, prendre du temps avec lui, c'est fondamental parce que c'est là qu'on va recevoir peut-être ses inattendus, peut-être ses paroles où il est le rocher et qui vont nous permettre alors de cultiver l'humilité parce qu'on va se forger un avis avec Dieu, avec les autres. Ça va nous obliger à nous soumettre à Dieu, mais aussi aux autres. Hein. Par exemple, en écoutant attentivement la prédication, c'est ouvrir les yeux pour percevoir ces inattendus. Et pour être très concret, je vais prendre un sujet politique et je finirai par ça. On va voter le 26 septembre sur un sujet qui nous perturbe tous. Est-ce qu'on s'est forgé un avis sur le sujet ou est-ce qu'on a un avis? Est-ce qu'on connaît la complexité du vote qu'on va devoir faire avec tout ce que ça va engendrer en bien et en mal? Ou est-ce qu'on a juste un avis? Est-ce qu'on s'est soumis aux experts, à ceux qui connaissent, à notre pharaon, pour choisir quelle est la meilleure chose? Est-ce qu'on s'est mis à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ses inattendus face à une telle chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va attendre alors, quel que soit le résultat, pas j'en sais rien du tout, que Dieu, malgré tout, il va continuer à être là, et il y aura des inattendus. Et c'est ça qui va nous aider à continuer. Je vous invite à la prière. Ah non, c'est toi qui dois prier. Hein. Non, non, vas-y. Oui, oui, j'étais lancé.
Alors, nous prions. Ah Seigneur, comment tu peux nous rejoindre dans nos habitudes et comment tu peux nous bousculer? C'est vrai, Michel l'a dit, on a besoin de ces yeux qui nous voient, c'est où on peut voir ces inattendus que tu crées pour nous. Nous te demandons de nous donner ces yeux pour le voir et la force de les accomplir. Merci pour ces exemples du passé. Aide-nous à nous en inspirer. Amen.